grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. En 2013, un article publié par l'anthropologue américain David Graeber a connu un retentissement mondial, le phénomène des boulots à la con. Pour le dire vite, c'est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement superflu ou néfaste que même le salarié ne parvient pas à en justifier son existence. Mais attention, un job à la con n'a strictement rien à voir avec un travail pénible, très utile pour la société, mais socialement dévalorisé. Comme le métier d'éboueur ou d'agent de nettoyage, tous ceux qui font le sale boulot, des jobs dits de merde, absolument nécessaires à la communauté. Un job à la con, c'est un emploi dont on pourrait très bien se passer sans que personne ne s'en aperçoive, ce qui ne sera jamais le cas des éboueurs ou des agents de nettoyage. Eux, quand ils se mettent à faire grève, pendant une semaine, nous le sentons passer. Mais qu'est-ce qu'un job à la con exactement? Existe-t-il une typologie? À quoi ça ressemble concrètement? Comment expliquer l'essor des jobs à la con? Pourquoi ces boulots font-ils souffrir? Peut-on vraiment les éviter, remédier à ces boulots à la con? Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Avec nous également pour réfléchir à ces jobs à la con, Priscilla Pelédouel de Psychologie Magazine, ainsi que le sociologue Vincent de Gonéjac. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Comment ça va?
Très bien, et vous-même?
Vous n'occupez pas un job à la con à l'hebdomadaire Le 1?
Pas du tout.
Quel est l'objet de votre chronique en fin d'émission?
Eh bien, ce sera une chronique sur un sujet pas du tout à la con, puisque ce sera le plastique et les déchets plastiques. Comment vivre sans plastique pour réussir à moins empoisonner notre environnement?
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour David Graeber. Vous êtes économiste et anthropologue, professeur à la prestigieuse London School of Economics. Vous êtes l'un des leaders du mouvement Occupy Wall Street et vous êtes considéré comme l'un des penseurs influents dans le monde. Et vous venez de publier Bullshit Jobs aux éditions Les Liens qui Libèrent. Pouvez-vous nous dire, David Graeber, ce qu'est un job à la con? Peut-on dire que ce sont des emplois absurdes et vains?
Oui.
Je crois que vous l'aviez décrit tout à fait exactement. Mais moi, je laisse au salarié de décider de l'utilité de l'emploi. Ce qui est vraiment surprenant, c'est de sentir qu'ils, de voir qu'ils ne sentent pas que leur travail est utile. Et donc, ce sont des emplois si superflus qu'ils croient secrètement que leur travail ne devrait pas exister. Si l'emploi devait disparaître, eh bien, le monde ne serait pas différent du tout, ou il serait peut-être même légèrement amélioré.
Alors,
c'est ça, un emploi à la con.
David Graeber, tout a commencé par un article paru en 2013, le phénomène des jobs à la con, et là, vous avez ressenti une forte intuition.
Oui, ça a commencé quand une amie à moi a lancé un nouveau magazine. Cette amie, pardon, a dit « Écris-moi quelque chose de provoquant, quelque chose que personne d'autre ne publierait. Libère ta pensée, vas-y. » Je dis d'accord. Et je n'arrêtais pas de rencontrer des gens. Je vais dire ça pour poser le contexte, que je n'ai pas du monde professionnel. Je viens vraiment d'une famille de la classe ouvrière. Donc le monde professionnel est tout à fait nébuleux pour moi. Et je rencontre des gens dans mon travail en tant que professeur. Et quand on leur demande ce qu'ils font, ils font mine de s'excuser. Vous savez, je ne fais pas grand-chose. Et bon, au début, je pensais que c'était de la modestie mal placée. Mais quand on essaye de les coincer un petit peu, ils disent « Non, non, je veux dire ça au sens propre, je ne fais rien de toutes mes journées. »
Vous vous attendiez à un tel retentissement avec cet article? Pourquoi ce thème des jobs à la con touche une corde si sensible chez beaucoup? Pourquoi ça parle à autant de gens?
Ça m'a vraiment époustouflé, je dois dire. Je m'attendais à ce que les gens soient légèrement amusés par cela. Mais c'est devenu vraiment complètement fou. En seulement une quinzaine de jours, l'article avait été traduit en 13 langues. Maintenant, c'est passé à 28 langues. Et le serveur n'arrêtait pas de crasher. Il était republié par même des journaux. Et puis, les commentaires écrivent, le courrier des lecteurs était vraiment incroyable. Les gens écrivaient des confessions qui disaient « Oui, c'est vrai, je suis avocat d'affaires, mais je n'apporte rien au monde. Je suis malheureux tout le temps. » Et ça n'a pas pris longtemps avant qu'on m'écrive directement pour dire « Moi, je travaille dans le secteur financier, on se transmet la patate chaude » et c'est presque devenu un mouvement.
David Graeber, se lever 5 jours sur 7 pour accomplir une tâche dont on sait qu'elle n'a aucune raison d'être, c'est assez démoralisant. Mais j'ai envie de vous dire, ne pas se lever 5 jours sur 7 parce qu'on est au chômage, c'est également démoralisant.
Mais ce qui est triste, c'est que les chômeurs sont très tristes, mais parce qu'ils ne peuvent rien trouver d'autre à faire, parce qu'on est dans une société où l'on considère que les chômeurs doivent passer tout leur temps à chercher un emploi et à se sentir mal quant à leur situation. Et en fait, si les gens font ce qu'ils aiment, eh bien, ça serait très tout à fait différent.
Alors attention, un job à la con n'a rien à voir avec un job dit de merde, c'est-à-dire le sale boulot, hyper bénéfique à la société, mais très peu reconnu ou très difficile. Je pense à Fatma, l'une des agents de nettoyage à Radio France au 6e étage. C'est pas la même chose. Attention, faut bien différencier les deux.
Oui, c'est très important de faire la distinction. À bien des égards, ils sont complètement contraires. Il semble qu'il y ait une relation inversement proportionnelle entre l'utilité sociale d'un emploi, des emplois qui profitent à d'autres, et ce qu'on paye pour ces emplois, et ce qu'en retirent les gens. Et c'est la même chose avec les agents de nettoyage dans mon université. Ce sont des gens qui font des choses, si jamais ils ne faisaient pas leur travail, l'université s'effondrerait du jour au lendemain. Ils travaillent dans des conditions très dangereuses, on ne leur accorde aucun respect, ils sont payés très peu, et les gens qui sont assistants du vice-proviseur, du vice-président, ne font presque rien, ils gagnent 20 fois plus, on les traite comme s'ils étaient très importants.
Vincent de Gaulle-Jacques, bonjour, vous êtes sociologue de premier plan, vous avez notamment écrit en poche « Travail, les raisons de la colère ». C'est vraiment un phénomène social majeur, ces jobs à la con, ces emplois dénués de sens, absurdes et qui font souffrir.
On remarque sur le terrain, d'abord dans les entreprises privées, puis après dans le public, le développement effectivement d'un phénomène totalement paradoxal dont David vient de parler, qui est que au nom de que ces emplois donc qui sont vraiment utiles sont de moins en moins payés, de plus en plus dévalorisés, et que un certain nombre d'emplois qui d'ailleurs peuvent continuer à être utiles, mais se dévalorisent et perdent leur sens. Et je pense que c'est lié à l'introduction du new management depuis 30, 40 ans, et qui produit ce capitalisme paradoxant que j'ai décrit avec Fabien Lannick, c'est-à-dire hein, ces organisations paradoxantes. Et un des paradoxes, c'est que en fait, ces boulots, ils perdent leur sens parce qu'ils sont du côté de la prescription ou du côté, effectivement, au service d'indicateurs, de résultats, au service d'un management de plus en plus désincarné, dirait Marianne Dujarrier, qui a fait un beau livre là-dessus, et de moins en moins en prise avec le travail réel. Et je pense que la perte de sens et les boulots de merde... deuxième paradoxe, on peut se demander pourquoi ces gens-là sont payés à rien faire, alors que la question de la rentabilité, la productivité, de l'utilité est devenue une des références majeures du management actuel.
David Graeber.
Je crois que c'est là l'un des aspects fascinants de l'organisation actuelle du travail. C'est exactement le genre de choses que l'on associe à l'Union soviétique. Le capitalisme était censé être le contraire, les choses devaient être faites sous l'égide du lean. Mais en fait, c'est assez efficace quand on prend les travaux manuels, les cols bleus comme on les appelle, mais les cadres qui font les rationalisations d'entreprise devraient faire des choses, mais ensuite ils vont recruter 5 ou 6 personnes qui sont simplement là pour qu'ils leur donner une bonne apparence. Ce sont simplement des larbins. Il y a des impératifs complètement différents dans différentes parties de la société.
Priscilla Pelédoël, bonjour.
Bonjour.
Éminente journaliste à Psychologie Magazine. Merci. Vous avez lu l'essai de David Graeber et ça vous a beaucoup plu.
Eh bien oui, j'ai trouvé que c'était un livre remarquable, vraiment. Un livre qui secoue. Je pense qu'on ne peut On ne réfléchit pas, on ne voit pas les choses de la même manière avant l'avoir lu et après l'avoir lu. On a un changement de vision total, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec l'analyse de David Graeber, mais il a vraiment le mérite de mettre le doigt exactement sur des problèmes tellement profonds d'organisation sociale et d'idéologie du travail que vraiment on ne peut pas passer à côté. Enfin, pour moi, c'est un livre totalement essentiel, un des essais importants de la rentrée, auquel vraiment tout le monde devrait, sur lequel tout le monde devrait jeter un coup d'œil. Si je peux ajouter une chose, Ali, je pense que dans ce que vient de dire David, il y a une chose qui est très importante et dont il parle dans le livre, c'est, il l'analyse très bien historiquement, c'est ce moment où les choses ont basculé entre au moment de l'industrialisation, de l'entrée dans la civilisation industrielle, où le travail, contrairement au Moyen-Âge, est devenu une valeur. Et d'ailleurs, on l'entend dans le discours des hommes politiques à longueur de temps, en regard évidemment du chômage, le travail est devenu une valeur. Or, dit David Graeber, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai.
Et on va y revenir tout à l'heure hein, sur cette question de la valeur travail. Bonjour Nadège.
Bonjour Ali.
Bienvenue dans l'émission.
Merci beaucoup. Ben, bonjour à tous vos intervenants et plus particulièrement à Monsieur Graeber.
Alors vous, est-ce que vous avez eu l'impression d'occuper un job à la con, alors, dénué de sens, absurde?
Alors moi, c'est ce que j'expliquais donc à votre journaliste. Moi, j'exerce pas à proprement parler un petit job, mais je suis salariée au sein d'une filiale d'un grand groupe français qui regorge justement de bullshit jobs. Voilà, je voulais apporter mon témoignage à ce sujet puisque chez nous, on a un organigramme très très complexe. On n'y croit pas grand-chose finalement et il figure beaucoup de métiers obscurs dont on comprend même pas l'intitulé.
Par exemple, vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit là?
Là, j'ai pas d'exemple, c'est vrai que je très honnêtement, je pensais pas le passer à l'antenne. J'ai pas de nom qui viennent, mais effectivement, on a beaucoup de métiers, on sait pas et quand on pose nous-mêmes la question, on ne sait pas quoi nous répondre. Et en fait, il existe de nombreuses strates en fait entre le salarié, je dirais au bas de l'échelle et le big boss, et je reviens ce que vous disiez tout à l'heure, c'est souvent des métiers qui en plus coûtent très très cher à l'entreprise, l'entreprise qui vend pourtant les vertus de la rentabilité, et ces salariés, parce que ces salariés sont en général très 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 bien payés. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il y avait des métiers qui avaient du sens avant, mais qui aujourd'hui deviennent des bullshit jobs. Je pense notamment à la catégorie des managers. Je parle bien dans notre entreprise, hein, je préfère préciser. Avant, c'était des techniciens de leur métier qui apportaient une réelle plus-value à leur équipe. Aujourd'hui, notre direction, clairement, nous, dans notre entreprise, nous dit qu'ils n'ont pas à connaître leur métier, qu'ils sont là pour animer leur équipe. Mais en fait, donc aujourd'hui, nous, on a un manager qui ne connaît pas son métier. Oui. Et on a vraiment l'impression qu'il ne sert à rien.
Et j'ai l'impression, Nadège, que vous avez lu le livre de David Graeber. Hein.
Alors, pas du tout, mais je vais m'empresser de l'acheter après avoir accroché avec vous. Non, mais c'est vraiment, j'avais partagé son analyse, et nous, on le vit au quotidien. En tant que salarié, on est pollué quelque part par aussi ces gens qui exercent des bullshit jobs parce que nous, aujourd'hui, on a des managers qui font rien de leur journée, qui se contentent de distribuer les tâches, de surveiller leur équipe. Et on est nombreux à avouer à travailler nettement mieux quand ils ne sont pas là.
Très, très bon.
Mais c'est vrai, c'est une réalité. Et l'un d'eux m'a même confessé, il y a quelque temps, être très, très bien payé pour ce qu'il faisait, qu'il s'ennuyait à tel point qu'il était prêt à abandonner son poste de manager pour redevenir simple salarié, entre guillemets.
Très beau témoignage, Nadège. Très, très beau témoignage. David Graeber l'a écouté avec beaucoup d'attention.
Oui, c'est ce qui se passe lorsqu'on ouvre les lignes sur ce sujet. On peut voir pourquoi il y a tous ces témoignages dans l'ouvrage. Parce que les gens gardent ça au fond d'eux depuis tellement longtemps.
Et n'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler au 01 45 24 7000. Vincent de Gaulé-Jacques sur le témoignage de Nadège qui est très éclairant.
Ben oui, elle ne fait que dire dans son vécu quotidien du travail ce mystère d'avoir affaire à des gens qui sont, par exemple, quand elle parle de ces métiers obscurs, manager qualité, chef de projet, chargé de mission, consultant interne, etc. Et donc, j'avais analysé, par exemple, le paradoxe de la qualité qui met en place des machines à gaz qui empêchent les gens de travailler correctement.
Sans parler des réunions.
Julien Bisson, le témoignage de Nadège, je crois, vous fait penser à un personnage, un célèbre personnage de la culture pop.
Oui, alors moi je pense à un personnage de la série Friends. Vous savez tous de la série Friends qu'on avait regardé dans les années 90 et 2000.
Chandler.
Et je pense au personnage de Chandler. Et ce personnage de Chandler, il occupe un poste dans une grande entreprise, mais dont on ne sait pas vraiment quels sont les contours. Et d'ailleurs, il y a un épisode assez célèbre de la série où il y a un quiz au sein des amis, et l'une des questions est quel est le métier de Chandler. Et personne personne n'est capable de répondre à quel est le métier de Chandler.
Ils savent
simplement
plus.
Que ça a rapport avec la reconfiguration de données et la facturation statistique. Voilà. Donc, je pense que quand on a des jobs comme ça, on en connaît tous des gens entre nous, des amis, qui on serait incapable de dire vraiment quel métier ils font.
Mais eux-mêmes ne savent pas non plus toujours ce qu'ils sont en train de faire.
David Graeber, on est celui qui occupe un job à la con, dénué de sens, il le sait ou alors il en est totalement pas conscient qu'il occupe un job à la con.
J'imagine qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Par exemple, il y avait une femme qui a écrit, elle a travaillé pendant 6 mois pour un magazine de voyage, le genre de magazine qu'on lit dans l'avion, et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait jamais vu un seul exemplaire du magazine, et elle s'est rendue compte qu'en fait, le magazine n'existait toujours, tout même, pas du tout, c'était une arnaque fiscale, en fait. Et ça, c'est possible, mais c'est assez rare. Bien souvent, les gens comprennent ce qu'ils font.
On retrouve des jobs à la con dans le privé et dans le public de façon très égale, hein, parce que le cliché veut qu'on retrouve beaucoup de ces jobs-là dans l'administration, une administration un peu kafkaïenne avec des postes dont on ne comprend pas l'objet.
Oui, mais de plus en plus, il est impossible de dire la différence entre l'administration et le secteur privé, parce qu'on a tellement privatisé dans l'administration publique que le secteur privé est maintenant tenu à bout de bras par l'administration, avec tous les règlements. Et donc, c'est à ces interfaces où il y a ces lieux de chevauchement entre le privé et le public que les bullshit jobs s'accumulent. Il y a une personne citée dans l'ouvrage qui est sous-traitant d'un sous-traitant d'un sous-traitant de l'armée de terre allemande. Et son boulot, c'est que quand un militaire allemand veut déplacer son ordinateur d'une pièce à une autre, il devait faire 500 km, empaqueter l'ordinateur et ensuite le déplacer, ensuite rentrer à sa base.
Vincent de Gaulle-Jac.
On le trouve surtout au départ dans les grandes multinationales, dans les grandes organisations, d'abord dans le privé, ce qui est effectivement contraire, complètement paradoxal par rapport à l'image du privé qui se présente comme efficace, et avec la réforme de New Public Management, c'est-à-dire l'introduction du modèle de l'idéologie managériale dans les institutions publiques, on le voit se développer. Je voudrais juste insister sur aussi le rôle des grands cabinets de consultants dans l'émergence de ces nouveaux métiers et à quoi ils servent. Et ils servent, je pense, en particulier à développer l'idéologie managériale et donc à éviter qu'on remette en question les prescriptions qui sont données aux travailleurs sur le plan du travail concret.
Allez, dites-nous si vous avez occupé ou si vous occupez un job à la con dans le privé ou dans le secteur public, un boulot qui vous fait souffrir tout de même au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de l'émission ou l'appli France Inter. L'excellente traduction est assurée ce matin par Anthony Roger. Alors, je peux vous assurer que leur boulot n'a rien d'un job à la con. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Philippine Rouvière et Laura Laplot, et c'est Stéphanie Texier à la réalisation. Et pour l'anarchiste David Graeber, les Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free, careless, keep your me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I
or should I blow?
Les Clash à 10h29 sur France Inter.
Ok, maintenant, let's have fun.
Pardon ?
Grand bien vous fasse.
Ah, ben voilà, allez au boulot.
Sur France Inter.
Qu'est-ce qu'un job à la con? C'est notre thème ce matin, ces boulots absurdes, vides de sens et qui peuvent faire souffrir. 01 45 24 7000.
C'est fou le nombre de personnes à qui on a fait faire de longues études qui se vantent d'avoir trouvé un super boulot dans une super entreprise.
Dans la vie, je suis Customer Action Coordinator. En B2B, of course. Je suis à 70K par an sur les bonus.
Et qui finissent par se demander ce qu'ils foutent là.
Mais qu'est-ce que je fous là?
C'est le genre de mec qui, pour s'occuper, font des meetings, des planning, des brainstorming.
Bon les gars, on va pas se mentir, hein, on est sur un gap entre les deux milestones du process, je pense que je suis clair pour tout le monde. Mais comme on est sur une business line holocratique, j'attends vos propales.
En quoi?
Non, pardon. En stand-by de vos propales. Merci Didier.
By the way, Francis, je t'avais demandé de mettre ça sur ta to-do. Est-ce que t'as fait ta to-do?
J'étais un petit peu rush, mais c'est good. J'ai pu faire ma to-do.
Eh ben écoute, on attend tes feedbacks de ta to-do.
Bah j'étais en conf call avec mon N+2. Il veut qu'on soit plus disruptif.
Mais c'est génial ça, Francis. On va garder l'ID. Je pense qu'on est tous gris pour qu'on disrupte. Hein, on fait ça à zap. Je vous rappelle qu'on a des deadlines, les gars.
Allez, c'est bien, les gars. Lunch time.
Pour tes tickets RSO, Jean-Luc.
Et quand ils ont fini, ils retournent à leur bureau pour faire semblant d'être débordés de travail. Bien sûr!
Un sketch de la barbe en 2016, David Graeber, notre invité, l'auteur de Bullshit Jobs. Rappelez-nous rapidement, David Graeber, ce qu'un job à la con pour ceux qui nous rejoignent.
Un bullshit job, un job à la con, c'est un boulot où la personne qui le fait a l'impression qu'il ne devrait pas exister, qu'il ne sert à rien du tout et qu'il fait empirer les choses pour les autres.
Ces jobs à la con sont souvent accompagnés d'un jargon nébuleux dont on ne comprend pas trop l'objet.
Bien souvent, on dit que si l'on ne peut pas dire immédiatement ce que quelqu'un fait, vu l'intitulé de son poste, il y a une forte possibilité qu'il ne fasse rien du tout.
Vincent de Gaulle-Jacques, sur ce jargon qu'on ne comprend pas, nébuleux...
Ben c'est la novlangue managériale. C'est cette langue qui fonctionne avec des oxymores permanents, qui fait qu'on n'arrive plus à donner du sens à ce qu'on fait. Et à expliquer, ça a été dit, pourquoi on fait ça, quel sens ça a. Je dois dire, je veux pas être désagréable avec notre invité, mais c'est quand même une langue anglo-saxonne qui est truffée d'expressions qui, pour les Français, sont toujours un peu plus mystérieuses. Et qui, je crois que la question, c'est, ça fait plus sens. C'est une langue qui fait plus sens et c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont pas bien et qu'elle, elle produit un mal-être et un malaise profond au sein des organisations.
David Graeber.
C'est complètement vrai. Beaucoup de cette langue vient des années 70. Ça vient de ces mouvements quasi-sectaires, autoréalisation, etc. Et d'une certaine façon, ça a été enfoncé à l'entonnoir dans la langue managériale. Et c'est toujours une question de puissance, la puissance de la volonté. Faites cela, créez votre univers, vous êtes responsable de ce que vous faites. Et ça a été transformé en ce jargon de folie, de qualité, excellence, etc.
Vincent de Gaulle-Jacques, je rappelle que vous êtes sociologue. Quels sont les secteurs qui génèrent le plus de boulot à la con, de job à la con, dénués de sens? Il y a des secteurs privilégiés?
Oui, c'est lié à l'introduction dans les organisations, à la fois de cette obsession financière, de la rentabilité, de la productivité, de la qualité totale, zéro défaut, du lean management.
C'est quoi le lean management?
Eh ben, ça fait partie de la nouvelle langue managériale et qui est un bel oxymore, puisqu'il s'agit de faire plus avec moins, c'est-à-dire lean, c'est dégraisser, en fait, si on veut être, avoir une traduction un petit peu sauvage, mais c'est une nouvelle technique de management où il faut faire plus avec moins.
David Graeber.
Oui, le managérialisme, c'est un véritable problème. Je parle de la futilité managériale parce qu'on a des strates entières de managers qui ont été insérées entre ceux qui ont l'argent et ceux qui travaillent réellement. Parfois, 5 ou 6 strates de personnes qui remplissent des papiers, qui se gèrent les uns les autres. Ça se passe aussi dans le secteur créatif, que ce soit dans le secteur du film, l'édition, l'art. D'un coup, il y a ces conservateurs, ces curateurs, tous ces différents niveaux de cadres d'Hollywood qui s'échangent des scénarios et ça rend les choses très médiocres.
Christine Appelé-Douel de Psychologie Magazine.
Oui, il y a. Je voudrais revenir une seconde sur la question de la langue parce que ça me semble être vraiment un point très important. La novlangue en question, qui est une langue anglo-saxonne, a absolument gagné tous les secteurs, mais absolument tous. Je suis sûre, Ali, que dans vos réunions internes à Radio France, vous en entendez. Moi, j'en entends.
Pas ici, pas Radio France.
J'en entends dans mon propre journal et des anglicismes absolument partout, là où en réalité, il n'en est absolument aucun besoin. Enfin, avoir des purpose, par exemple.
Je sais pas ce que c'est.
Purpose,
c'est quoi?
Moi non plus, PE. C'est quand même très étrange. Alors, je crois que ce n'est pas du tout innocent. Enfin, c'est vraiment significatif d'un phénomène.
David Graeber, vous avez donc établi une typologie des jobs à la con. Comment avez-vous établi cette typologie? Sur quelle base, entre guillemets, scientifique, vous l'avez établie? Il y a 5 familles de jobs à la con, hein. Mais comment vous avez établi cette typologie?
En fait, ça m'est venu des personnes qui m'ont écrit. J'ai demandé aux gens de m'envoyer des descriptions de leurs formes d'emploi les plus absurdes et complètement inutiles. Et donc, je suis entré en communication avec pas mal d'entre eux et c'est donc un produit collectif que l'on a établi ensemble. Certaines descriptions m'ont assez surpris. J'ai créé 5 typologies. Il y a les larbins.
C'est quoi les larbins?
Les larbins, en gros, ils sont là pour simplement pour que quelqu'un ait l'air bien ou qu'il se sente important. Bien souvent, les gens ont 3 à 4 assistants. Peut-être qu'ils en ont simplement besoin d'un, peut-être d'aucun. Il y a beaucoup de boulots qui sont comme ça, en fait. Bien souvent, les gens sont recrutés pour quelque chose et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'eux, mais ils restent là parce que ceux qui sont aux commandes veulent le prestige qui se mesure à l'aune de combien de personnes travaillent sous vos ordres. Et donc, même s'ils ne font rien du tout, on les garde. Et donc, ils deviennent des larbins.
Alors, il y a le porte-flingue.
Oui, des porte-flingues. Et ça n'est pas quelque chose qui m'est venu spontanément, mais beaucoup de gens m'ont écrit, ont dit, moi, je fais du télémarketing. Je m'ingère dans la vie des gens et pour leur pourrir la vie, en gros. Et on n'a pas besoin de gens dans le télémarketing, sauf si les concurrents font déjà du télémarketing. Et donc, c'est un secteur qui peut avoir une raison d'être pour chacune des entreprises, mais socialement, c'est superflu. Beaucoup de gens disent ça à propos d'eux-mêmes. Les avocats d'affaires ont aussi cette impression. On a besoin d'un avocat d'affaires seulement si la partie adverse a déjà un avocat. On a besoin d'une équipe marketing si la partie adverse est une équipe marketing. Il y a donc des secteurs qui s'auto-alimentent, en gros.
Les rafistoleurs?
Les rafistoleurs, c'est intéressant. Ça vient du secteur du logiciel. Maintenant, il y a l'idée du logiciel libre, gratuit. Si quelqu'un fait quelque chose pour s'amuser, il ne faudrait pas le rémunérer pour cela. Mais ensuite, les choses ne collent pas entre elles, parce qu'on crée ces petits logiciels dans son coin. Et donc, on paye des gens à vraiment rafistoler tout ça pour que tout soit compatible. Et ça a l'air d'être assez générique, quand même, parce qu'il y a beaucoup de ces boulots qui ont l'air d'être là pour résoudre des problèmes qui ne devraient pas exister du tout.
Mais en quoi c'est un job à la con, les rafistoleurs? Je comprends pas trop.
Eh bien, par exemple,
Dans une des universités où j'ai travaillé, j'avais besoin qu'un menuisier vienne parce que mes étagères s'étaient écroulées. Et il a fallu une quinzaine pour que le menuisier vienne.
Une quinzaine de jours.
Oui, une quinzaine de jours. Et je ne pouvais pas me servir du bureau parce qu'il y avait des livres partout. Bon. Et il y a un type, et je me suis rendu compte que l'ensemble de son boulot, c'était de s'excuser pour le fait que le menuisier était trop occupé pour venir faire des réparations. Quelqu'un de très aimable, il faisait très bien son travail. Mais si on le virait et qu'on recrutait un autre menuisier, on n'aurait pas besoin du boulot.
Ça, j'ai pensé au bonheur des ogres de Pénac.
C'est vrai. Racontez vite fait dans le bonheur au bonheur des ogres.
Oui, c'est-à-dire ces boulots qui sont faits pour réparer, c'est très intéressant parce que j'avais fait un livre sur le coût de l'excellence dans les années 90 en réaction par rapport au livre de Peter et Waterman sur le prix de l'excellence qui développe cette idée qu'il faut, l'entreprise doit être performante sur tous les registres. Et Peter avait écrit un livre en disant mais ça marche pas notre excellence parce que sur les 65 entreprises qu'on a analysées, 7 ans après, il y en a plus de la moitié qui ont disparu ou sont en crise. Et il avait écrit un livre sur le chaos management. Devenez des fanatiques de l'échec, qui est un livre hallucinant. Et en fait, ce que décrit David, c'est un peu c'est les ça. Conséquences pour gérer le chaos management. Les crises qui existent aujourd'hui dans toutes les organisations sont hallucinantes. Alors on rajoute des gens, mais en fait, qui au lieu d'être branchés sur le travail réel, sont branchés sur des prescriptions qui en rajoutent dans le chaos.
Alors, dans la famille des jobs à la con, il y a les cocheurs de cases. C'est quoi ça, les cocheurs de cases?
Eh bien, c'est un boulot à la con traditionnel. On en connaît tous. En fait, ils sont là pour que l'organisation puisse affirmer qu'elle fait quelque chose, alors qu'elle ne fait pas vraiment cette chose.
C'est
la conformité.
C'est tordu. C'est tordu. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais s'il y a un problème, l'administration va créer une commission d'enquête, par exemple. Et ensuite, on fera des recommandations et rien ne va se faire vraiment, mais c'est une façon de dire que l'on traite le problème. Et les entreprises font ça en interne aussi.
Et puis enfin, il y a les petits chefs. Deux types de petits chefs hein, qui ne servent à rien et qui font des jobs à la con.
Certains d'entre eux créent de la connerie et d'autres sont simplement là pour surveiller des gens qui n'ont pas besoin d'être surveillés. Il y a beaucoup de grandes entreprises où il y a deux fois plus de managers que de travailleurs et ils se gèrent les uns les autres. Et bien souvent, les gens m'écrivent et disent « Moi, je suis manager intermédiaire, mais avant, je faisais ce boulot et puis j'ai été promu. Je sais qu'ils n'ont pas besoin d'être surveillés, ceux que je surveille. » Et donc, on a le choix soit de faire semblant de travailler, de ne rien faire, ou bien on peut inventer des mesures, des métriques qu'on va mesurer pour avoir l'air occupé, mais en fait, ça rend les choses encore plus inefficaces.
Juno Bisson, vous nous avez dit hors antenne que vous aviez une amie dont vous ne compreniez pas le job, le boulot.
Dont j'ai du mal à comprendre le job et qui justement, qui est dans une grande entreprise américaine et qui, en l'espace de 5 ou 6 ans, a occupé 6 ou 7 postes de manager différents dans des secteurs différents de la même entreprise dont elle nous dit à chaque fois bah, j'arrive pour le marketing, j'arrive pour faire du légal, je fais de la conformité, je ne connais absolument rien à ces secteurs-là, mais simplement parce que j'ai été plutôt bonne manager a priori dans un autre secteur, on me déplace d'une division à une autre, alors même que objectivement elle ne connaît, elle le dit, strictement rien au domaine sur lequel elle est affectée.
Beaucoup de messages sur notre page Facebook. Mario qui nous dit je suis au boulot et je vous écoute en direct, n'est-ce pas la preuve que mon job est assez con pour me permettre cette situation. La dernière fois que j'ai vu mon boss, il m'a gentiment dit que ce que je gérais du côté de l'argent, je fais des copier-coller toute la journée. Pas facile à expliquer à mon fils que ce que je fais n'a aucun sens. Et puis, Zofia nous dit, je peux vous parler des coordonnateurs et coordinatrices dans mon boulot, dans le réseau de santé où je travaille. Ça fait 12 ans que je ne sais toujours pas à quoi ils servent et je crois que non plus. Christine Appelé-Douel.
Oui, ces témoignages sont vraiment absolument parlants. Alors, j'ai noté quelque chose dans le livre de David Graeber que je trouve très important. C'est, il parle d'une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni et qui met en place un moyen de calculer quelle est véritablement l'utilité sociale par type de travail. Et c'est absolument extraordinaire. Alors, je vous donne un exemple. Un banquier de la City, hein, il parle évidemment de ce qui se passe en Angleterre. Salaire annuel, environ 5 millions de livres, ce qui n'est pas rien. Estimation de la valeur sociale détruite pour une livre gagnée, 7 livres. Il est tout en haut de l'échelle sociale. Et on arrive justement aux boulots qui sont, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont les plus utiles mais les moins rémunérés et les moins considérés socialement. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ce sont ces jobs-là qui sont les plus utiles à la communauté, c'est ce que vous disiez. En dernier, donc en fait en haut de la liste, on trouve l'employé de crèche. Salaire annuel environ 11 500 livres. Estimation de la valeur sociale produite pour chaque livre gagné, 7 livres. Donc voilà,
tout est dit. Édifiant.
Ça illustre bien le renversement sur la question de la valeur. De la valeur travail à la valeur du capital. C'est-à-dire ce qui est la valeur du travail bien fait, du bel ouvrage, qui était quand même une référence très très forte dans le travail, est en train de se est complètement déliquante, alors que la valeur est calculée aujourd'hui d'ailleurs uniquement en fonction de sa valeur financière et de sa valeur économique. Et je voudrais faire une deuxième remarque, parce que la typologie de David est tout à fait intéressante. Je voudrais pas en rajouter dans la dépression collective par rapport à ce qui se passe dans le travail, mais c'est que des travails qui font du sens et qui sont pas des emplois de cons, le deviennent de plus en plus. Les médecins, les enseignants, les chercheurs,
les infirmières.
Ils vous disent tous qu'il y a toute une partie de leur travail qui devient de plus en plus con.
David Graeber.
Oui, là, en ce moment, il y a une grève des infirmières en Nouvelle-Zélande. Et la plainte, c'est que l'on crée de plus en plus de postes d'administrateurs hospitaliers. Donc, par conséquent, c'est eux qui reçoivent tout l'argent, donc on n'augmente pas les infirmiers et infirmières, mais ils s'inventent des excuses pour exister, donc ils créent de plus en plus de paperasse pour les infirmiers, et les infirmières ne peuvent plus s'occuper des gens, parce qu'elles passent 60 à 70% de leur temps à remplir des formulaires.
Frédéric Dénard travaillait dans une grande entreprise du luxe. Après la perte d'un gros client, sa société ne lui confiait plus aucune tâche.
Le matin, vous arrivez et après 10 minutes, 20 minutes, parfois j'arrivais à obtenir 40 minutes de travail, mais c'était tout. Et le reste de la journée, en fait, vous allez vous enfermer dans les toilettes pour pleurer. L'ennui au travail, c'est absolument terrible, puisque d'abord, vos collègues vous fuient, vous fuyez vos collègues, vous n'allez plus déjeuner avec eux, tout simplement parce que vous n'avez plus rien à leur dire. Voilà, vous vous détruisez psychologiquement, totalement.
Sa santé se dégrade. Anxiété, fatigue, déprime, crise d'épilepsie. 6 mois d'arrêt maladie. Son employeur le licencie. Les médecins établissent un lien entre sa maladie et son ennui au travail. Il porte plainte pour licenciement abusif. Son ex-employeur vient d'être condamné. Il est le premier salarié à faire condamner son ancien employeur pour ennui. Il devra lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts.
Un extrait d'un reportage sur France Info cette année. David Graeber, pourquoi un job à la con rend souvent malheureux? Vous parlez d'ailleurs de violence spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je crois que c'est très important. Parce que ce que cela nous démontre, c'est qu'on a une fausse idée de la nature humaine. Constamment, on nous dit que les gens veulent tout pour rien. Ils veulent en obtenir le plus possible pour le moins d'efforts possible. Mais là, on a des gens qui ont quelque chose vraiment pour rien. On les paye pour ne rien faire. Et ils sont très malheureux. Si on veut vraiment pouvoir ressentir que l'on contribue au monde autour de soi d'une certaine façon positive qui profite aux autres, si on retire cela aux gens, eh bien, ils s'étiolent. On parle de dépression, d'angoisse, d'attaques de panique, de maladies psychosomatiques qui disparaissent du jour au lendemain, du moment qu'on leur donne quelque chose à faire. Et aussi des relations au travail vraiment horribles. Certaines maltraitances au travail, des abus, et cela remonte jusqu'au plus haut niveau, lorsque on sent que l'on n'a rien à faire. Et une fois qu'on a quelque chose à faire, eh bien les choses s'inversent à nouveau.
Vincent de Golejac, je rappelle que vous êtes sociologue. Pourquoi ce sentiment de vacuité s'entraîne une baisse de l'estime de soi, de la déprime, voire de la dépression ou de la colère? Comment ça s'explique, ça, au fond?
Ça s'explique parce que pour Je veux dire, les ouvriers, même quand ils étaient exploités dans un travail pénible, retrouvaient de l'estime de soi parce qu'ils avaient le sentiment de faire du bon travail, qu'ils avaient le sentiment que c'était utile, qu'ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient se revaloriser par rapport à la qualité dont eux, ils savaient ce qu'elle était et qu'ils n'avaient pas besoin d'indicateurs. Ce qui fait perdre l'estime de soi, c'est par exemple des chercheurs qui ne sont plus évalués en fonction de la qualité des recherches qu'ils font, mais en fonction du nombre d'articles qu'ils ont écrits dans les bonnes revues à comité de lecture, etc. C'est-à-dire sur des indicateurs qui font pas sens pour eux. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, la pression psychique aussi de cette perte de valeur, et en particulier le fait que dans les entreprises maintenant, pour optimiser les résultats, donc répondre aux exigences des indicateurs sur lesquels on va être évalué, ça amène à tricher. Les comptables disent optimiser. Mais optimiser, c'est aussi magouiller pour donner une représentation artificielle de ce qu'on fait.
Christine Lapelle-Edouelle.
Oui, on sait très bien que pour la santé psychique, il est absolument essentiel de savoir ce que l'on fait et d'avoir surtout le sentiment d'avoir un effet sur ce que l'on fait. Si on perd ça, on se trouve devant la perte de sens la plus totale et donc une chute
de l'estime
morale.
De soi. David Graeber, comment on remédie à cette job à la con? C'est un travail de titan, mais quelles sont vos pistes?
Personne n'accepterait un boulot de ce genre s'il avait le choix. La première chose qu'il faut régler, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'on paye si peu pour des boulots utiles. Les gens le disent. J'essaye de faire quelque chose, j'essaye de m'occuper de la petite enfance, mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir des enfants à moi, je ne pouvais pas fonder une famille, je ne pouvais pas payer mon loyer avec ça. Et donc il faut traiter cette question. Les gens ne prendraient ces emplois-là s'ils avaient le choix. Et je crois que le revenu universel de base, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Si l'on donnait simplement aux gens de l'argent, leur dire à vous de voir ce que vous en faites. Voilà votre revenu, vous décidez ce que vous en faites, ce que vous faites de votre vie. Eh bien, peut-être que les gens choisiraient des choses complètement superflues, mais ça ne serait pas 40 à 50%. Ce sont les gens qui sont dans des travaux inutiles.
David Graeber, vous reviendrez pour parler du revenu universel de base et les moyens de le mettre en œuvre. On termine avec vous, Philippe. Bienvenue. Votre témoignage sur les jobs à la con. Bienvenue, Philippe, dans Grand Bien vous fasse.
Ah oui, bonjour. Eh ben moi en fait, quand on parle de job à la con, je me rends compte de plusieurs choses. Déjà que souvent quand on donne une promotion à un technicien, par exemple, c'est pour promouvoir manager, souvent un poste auquel il n'est pas très compétent. Et donc, il continue à un peu réfléchir sur son travail qu'il faisait avant. Il continue à faire du travail de technicien et un peu gêner justement les gens avec lesquels il travaille. Et j'ai souvent aussi remarqué que pendant les plans sociaux, on avait tendance à créer des jobs, en fait, pour éviter de licencier certaines personnes, qui leur permettaient, en fait, disons, on créait ces jobs et on mettait des gens, en fait, qui se retrouvaient intercalés dans le niveau hiérarchique et qui ont peut-être, en fait, un problème, enfin, qui créaient des problèmes de reporting parce que ils faisaient juste la boîte aux lettres, enfin, le facteur entre différents niveaux de management et ça créait des niveaux supplémentaires.
Merci beaucoup, Philippe, de votre témoignage. Merci d'avoir appelé ce matin. David Graeber, juste en un mot, vous êtes américain. Est-ce que Donald Trump a fait de la présidence de la République un job à la con?
Personnellement, je crois que Donald Trump est une farce qui a été jouée par l'électorat américain sur le système électoral. Parce que quand on voit des politiciens, voilà exactement ce qu'on pense.
Un peu sinistre, quand même.
Exactement.
Ah oui, c'est vrai.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Graeber, d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Je recommande vivement Bullshit Jobs. C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci beaucoup Vincent de Gaulle-Jacques d'être passé dans Grand Bien vous fasse, ainsi que Christina Pelédoile, notre camarade.
C'est un plaisir.
Allez, tout de suite, vous l'attendez avec impatience, je crois que la France entière l'attend, c'est la chronique de Julien Bisson de l'hebdomadaire Le 1.
Magnifique.
Juste après le disque.
Magnifique. Ça te fait un drôle d'effet.
Junior interprété magnifique à 11h05. Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, à la une de votre hebdomadaire, vous évoquez la question du plastique. Excellent reportage hier d'ailleurs sur France 2 dans Cache Investigation, dont les déchets envahissent de plus en plus nos vies et notre environnement.
Ouvrez votre frigo, il est là. Dans votre poubelle, omniprésent, autour de vos aliments, dans vos placards de cuisine, sur votre dos et même dans la composition de vos cosmétiques, il est partout. Loin d'être un visiteur affable et prévenant, le plastique se révèle discrètement nuisible, merveilleusement vicieux. Pollution des sols lors de l'extraction du pétrole, rejet dangereux pendant sa transformation, fragilité à l'usage, dégradation toxique en décharge ou en incinérateur, particules empoisonnées en mer. Ce fantastique matériau est à l'origine d'une pléthore d'impacts environnementaux qui nous semble bien insaisissable. Ces mots, ce sont ceux de la jeune Alice Gubry, 22 ans, qui témoigne dans nos colonnes de sa vie presque sans plastique, sans sac de course, sans emballage à usage unique, sans cosmétiques remplis de microbilles. Elle poursuit « Le Don Quichotte du plastique se lancerait dans une bataille perdue pour supprimer le plus dérisoire détail. Il s'agit essentiellement de refuser d'avoir constamment du plastique au bout des doigts, tel un Midas des temps bonnernes. » Comme elle, c'est vrai que nous sommes nombreux à nous inquiéter de la multiplication de ces plastiques et de leurs déchets dans notre environnement. On estime qu'il y a à peu près 6 milliards de tonnes de déchets plastiques qui ont été produits, dont la moitié ces 15 dernières années. Des déchets qui n'en finissent plus de contaminer les eaux, noyer les sols et empoisonner les espèces.
Et vous vous demandez dans le 1, quels sont les risques de tous ces déchets plastiques?
Oui, c'est une question que nous avons posée à Nathalie Gontard. Nathalie Gontard, elle est chercheuse à l'INRA, elle est spécialiste de la question de ces plastiques. Elle nous a donné cette image frappante. Nous consommons et jetons chaque année l'équivalent de notre poids corporel en plastique. Or, celui-ci va persister bien au-delà de notre propre vie, au moins 5 à 6 fois la durée de notre existence. Les effets sur l'environnement, eux, sont dramatiques. À court terme, on connaît ces effets polluants sur la faune et la flore. On a tous vu ces images de tortues ou de poissons piégés par des sacs plastiques. Mais les risques sont encore plus importants à long terme. Le plastique se dégrade en petits morceaux microscopiques puis nanoscopiques qui peuvent se diffuser et contaminer l'ensemble de notre environnement et des organismes vivants. À cette taille, ils peuvent transporter les substances cancérigènes, s'accumuler dans les organes, entraîner des phénomènes inflammatoires graves, et même dans le cas d'exposition à des doses massives, provoquer des réactions chimiques, aujourd'hui difficiles à prévoir. Bref, une vraie bombe à retardement quand on connaît la masse de plastique qui barbote aujourd'hui dans l'océan ou est enfouie sous la terre.
Bah dis donc, le tableau est sombre, mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on peut vraiment, vraiment vivre sans plastique?
Mais on pourrait déjà mieux le recycler, afin d'en utiliser moins. La France fait partie des mauvais élèves de ce côté-là en Europe et le gouvernement veut changer les choses en affichant un objectif de 100% de plastique recyclé en 2025 avec l'interdiction des gobelets, de la vaisselle jetable ou un bonus-malus sur les plastiques non recyclés. Mais le recyclage, c'est pas exactement la solution miracle. Comme le rappelle le sociologue Baptiste Mont-Saint-Jean dans nos colonnes, Baptiste Mont-Saint-Jean qui était auteur de Homo Detritus, on ne recycle pas du plastique comme on recycle du verre ou du métal. Seuls certains plastiques sont recyclables, comme les bouteilles par exemple. Et encore, elles ne le sont que deux ou trois fois avant d'être réutilisées pour faire d'autres objets en plastique non recyclable, lui. Pour les autres solutions, notre journaliste Hélène Singier a aussi enquêté sur les matériaux alternatifs, biodégradables. Elle évoque des plastiques faits à base d'amidon de maïs, d'algues vertes ou d'ailes de mouche. Je vous invite à en savoir plus. Reste enfin une autre solution, une dernière solution, celle de consommer moins et d'essayer de s'affranchir un tout petit peu de ce plastoc qui aujourd'hui n'emballe plus grand monde.
Merci Julien Bisson. Plastique peut-on vivre sans? C'est le thème à la une de l'hebdomadaire Le 1, disponible en kiosque et en librairie. Vous pouvez podcaster cette émission sur l'appli France Inter ou sur iTunes. Demain, on s'intéresse à la sexualité des Français. Ça va intéresser notre invité David Graeber avec la chercheuse Janine Mossulaveau qui publie La vie sexuelle des Français. Questions, réactions au 01 45 24 7000.